Après les attentats, Bertrand, vous avez voulu revenir sur l'impact de ces événements sur la société belge.
Oui, passé la terreur et la tristesse, la trace collective la plus puissante de ces attentats, ça a été le doute. Le doute d'abord envers l'État, envers les institutions. Souvenez-vous de la Belgique failed state, l'État failli qui a été incapable d'empêcher ça. L'État qui a eu aussi, vous en souviendrez, d'énormes difficultés à gérer l'après, la réouverture de l'aéroport de Zaventem. Le pouvoir qui a été ébranlé jusqu'à cette double démission refusée des ministres de l'Intérieur et de la Justice. La marche contre la peur annulée par la peur des représailles. Les doutes aussi sur l'islam de Belgique qui ont conduit Yann Yambon à dire qu'un nombre significatif de musulmans avait dansé après les attentats. En fait, c'est tout notre modèle d'intégration ou de non-intégration qui a été interrogé. C'est le doute complet. Voilà dans quoi nous avons été plongés.
En un sens, Bertrand, l'objectif des terroristes a été atteint.
Oui, c'est vrai, mais relativisons. Les doutes de la société belge préexistaient aux attentats. Ils n'ont fait que les révéler. Et si la Belgique s'est montrée très fragile, il faut évidemment dire que c'est l'Europe tout entière qui doute de son modèle, de civilisation, de son identité. Et chaque attentat est un révélateur. Et aussi un accélérateur de ce malaise. Qui sommes-nous vraiment, nous Européens? Qu'est-ce qui nous définit? Nous n'avons comme seule réponse que le doute, alors qu'autour de nous, tout le monde affiche ses certitudes. Donald Trump fait grimper la testostérone aux États-Unis. Les Chinois et les Russes affirment avec autorité qui ils sont et quelles sont leurs prétentions géostratégiques. Erdogan en Turquie traite les Allemands de nazis comme si de rien n'était. Mais l'Europe doute et la Belgique doute encore plus que les autres.
Il n'y a pas de leçon positive à tirer de tout ça?
Si, la leçon, c'est que le doute, c'est une force aussi. Parce que nous doutons, nous arrivons à avancer. C'est parce que nous avons douté de notre capacité à faire face aux nouvelles menaces que nous avons renforcé nos services et évité plusieurs tentatives d'attentat après le 22 mars. C'est parce que nous doutons que nous sommes capables d'introspection, d'adaptation permanente au monde. La certitude, c'est aussi l'aveuglement, c'est aussi l'arrogance. C'est le meilleur moyen de perdre une guerre. Il nous faut l'accepter. Un certain niveau de doute est nécessaire pour être une société forte. Disons qu'en Belgique, nous doutons trop. Et tout le temps, le 22 mars nous l'a prouvé une fois de plus. Pourtant, nous avons aussi vu que nous étions capables de choses magnifiques. Et on en a encore parlé ce matin. La force de la mobilisation à la bourse, par exemple. Le travail des services de secours. La détermination des services antiterroristes. La dignité des familles. Pour survivre au 22 mars, il faut que nos doutes n'emportent pas l'humanisme. C'est ça, si vous en souvenez, la profession de foi de Camus après la guerre. Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.
C'était Bertrand Haine, il est 7h25 et ce matin j'avais envie de donner une carte blanche à Sébastien Ministru. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes venu nous parler d'un des dommages collatéraux des attentats de Bruxelles.
Oui Mehdi, et l'un de ces dommages collatéraux, c'est, pour illustrer le propos de Bertrand, la sale ambiance qui a traîné à Bruxelles après les événements. Sale ambiance faite d'un mélange poisseux d'angoisse, de peur et de méfiance. Une peur qu'on pouvait quasiment toucher, palper du doigt, un peu comme quand on tâte et on sent un melon pourri. Un peu comme dans la ville, les gens étaient quand même, et plus particulièrement dans les transports en commun, les gens avançaient un peu gênés, un peu comme quand on nage dans une piscine sale en évitant les détritus qui flottent à la surface de l'eau. Et dans ce climat où personne ne sourit, dans les transports en commun, à Bruxelles, ça ne sourit déjà pas beaucoup. Alors au lendemain des attentats, il fallait pas s'attendre à ce qu'on fasse en plus la chenille dans la rame. Dans ce climat, un ami m'a raconté sa mésaventure dans le tram le jour d'après. Il est dans le tram, bondé, et il voit monter un jeune homme qui s'installe à côté de lui. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Un jeune homme qui porte une barbe, un petit bonnet en crochet et un sac de sport. Dans le souvenir angoissant de mon ami, ce sac de sport a des dimensions surnaturelles. Il est énorme, voilà. Et dans son esprit, ce sac contient toutes les bombes artisanales que la ligne 25 Mézières-Gare du Nord n'a jamais rêvé de transporter. Mon ami m'a avoué, il a tenu deux arrêts. Voilà. Il a essayé de se raisonner, mais ça n'a pas marché. Il est descendu à l'arrêt suivant et il était persuadé que l'inconnu allait se faire sauter, pour vous dire tout de même combien les attentats ont pu altérer notre perception des choses. Mais Mehdi, faut quand même être con pour descendre du tram parce qu'on voit un type avec une barbe et un sac de sport qui semble faire tic-tac, 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 alors qu'il ne fait rien du tout. J'en parle avec d'autant plus de facilité que ce con, ce lâche qui a quitté le tram comme on quitte le navire, laissant derrière lui femme, enfant et innocent, c'est moi. Ah. Donc voilà, j'en profite d'ailleurs pour présenter mes excuses à ce monsieur. Toi, l'inconnu, le mercredi 23 mars 2016, tu étais dans le 25, tu es monté à l'arrêt Patrie, ça ne s'invente pas. Tu avais une barbe, un bonnet et un grand sac. Tu ne m'as pas beaucoup connu parce que je suis descendu à l'arrêt suivant, à l'arrêt bienfaiteur, ça ne se réinvente pas. Bon, eh bien, voilà, je voulais te dire, sorry, quoi. En conclusion, Mehdi, je dirais du haut de mon petit coin de quotidien, salaud terroriste qui ont failli me faire raciste.
Et vous ne l'êtes absolument pas. Grand merci, Sébastien Ministru, d'être venu ce matin pour raconter cette petite tranche de vie.